s'intéresse maintenant au journal des Amériques et d'Haïti. Adrien Delgrange, bonjour.
Bonjour Gilles Moreau, bonjour à tous. 24 juillet, de Port-au-Prince à Toulouse, de La Paz à Santiago. Bienvenue à tous.
RFI.
Dans ce journal, le Mexique qui enregistre des records de contamination liés au coronavirus. L'élection présidentielle en Bolivie, repoussée au 18 octobre prochain. Nous irons par ailleurs en Haïti, où de moins en moins d'Haïtiens se rendent à l'hôpital pour les accouchements, notamment, et ce, par peur d'attraper le coronavirus. Au chapitre culture, le festival Haïti en Folie démarre sa première édition virtuelle aujourd'hui. Et puis enfin, rencontre avec une voix haïtienne, la chanteuse Moonlight Benjamin, en concert ce soir à Toulouse.
RFI. Las voces del mundo.
Et place à la revue de presse des Amériques pour débuter ce journal. Nous sommes avec Arim Lipold. Bonjour Arim.
Bonjour Adrien, bonjour à tous.
Et nous prenons tout de suite la direction du Chili, Arim, où le Chili, le gouvernement chilien, vient de subir une lourde défaite politique.
Oui, un joli noir pour le président Sébastien Piñera, commente le journal La Tercera, qui parle d'une des pires journées depuis le début de son second mandat. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, la Chambre des députés a approuvé hier, avec les voix d'une partie de la droite, une importante réforme constitutionnelle. Elle permet aux retraités de retirer exceptionnellement 10% de leurs épargnes des fonds de pension privés pour pallier aux nécessités de la crise liée au coronavirus. Le gouvernement de droite s'était vivement opposé à cette loi. L'opposition, elle, crie victoire. Selon La Tercera, elle y voit un premier pas vers un changement du système des retraites, très décrié au Chili. Vous savez, ce système est basé sur la capitalisation privée mise en place par la dictature de Pinochet. Le gouvernement devrait promulguer la réforme constitutionnelle encore ce vendredi.
Aux États-Unis, à présent, la crise du coronavirus pourrait avoir de lourdes conséquences pour les locataires et les propriétaires qui ont perdu leur emploi.
Oui, c'est le New York Times qui tire la sonnette d'alarme. Selon le journal, plus de 20% des ménages américains ne savent pas s'ils vont pouvoir payer leur loyer ou rembourser leur crédit dans les mois à venir. Le Parlement doit les aider, estime le New York Times, car l'interdiction temporaire d'expulsion des locataires ne pouvant plus payer leur loyer est en train de prendre fin. Il faut de toute urgence prolonger ce moratoire, écrit le journal. Le Congrès doit aussi faire le nécessaire pour apporter une aide aux personnes concernées afin qu'elles puissent payer leur loyer ou leur crédit. La majorité démocrate de la Chambre des représentants a fait des propositions en ce sens, mais ce projet de loi est pour l'instant bloqué par les républicains qui contrôlent le Sénat.
Et nous restons aux États-Unis où la communauté latino, communauté qui est très largement touchée par la pandémie, comme le montre une étude publiée hier.
Oui, c'est la première étude en fait sur l'impact du Covid-19 au sein de cette communauté qui vit, vous savez, majoritairement en Californie, au Texas et en Floride, trois États où le virus se propage actuellement à grande vitesse. Selon USA Today, qui cite cette étude, eh bien un tiers des patients Covid aux États-Unis sont des Latinos, alors qu'ils ne présentent que 18% de la population.
Alors pourquoi est-elle disproportionnellement touchée, Arim?
Eh bien, d'après USA Today, c'est parce que les Latinos vivent souvent dans des conditions précaires et qu'ils partagent des petits logements. De plus, ils sont nombreux à travailler dans les secteurs à risque comme les abattoirs et les hôpitaux.
On termine cette revue de presse par cette réflexion qui a retenu votre attention, Arim, celle d'un journaliste canadien sur le tourisme post-Covid-19.
Est-ce que la crise pourrait aussi changer l'attitude des touristes? C'est la question que se pose l'éditorialiste du journal Le Devoir, de retour d'un séjour à Paris. Il y avait une éternité que je n'avais pas vu Paris ainsi, écrit-il. Paris débarrassé de ses visiteurs pressés qui ne regardent le monde que par la lucarne de leur appareil photo pour ensuite ennuyer leurs amis pendant deux semaines avec des milliers de clichés qui ont envie de rejoindre le grand dépotoir numérique que chacun traînait dans son ordi. Et le journaliste de regretter que le touriste n'ait plus rien à voir avec l'origine du mot.
Arim Lipold pour cette revue de presse des Amériques. Merci à vous. La suite du journal nous emmène au Mexique. Le Mexique qui a enregistré 8400 nouveaux cas de contamination au coronavirus en 24 heures. C'est un chiffre record pour ce pays depuis le début de l'épidémie. Le pays qui compte 41 900 décès, dont 718 intervenus au cours de la seule journée d'hier. Par ailleurs, nous avons appris que les Boliviens devront encore attendre un peu avant d'élire leur président. L'élection l'élection présidentielle en Bolivie est repoussée au 18 octobre prochain. Prévue en septembre, les autorités préfèrent se laisser du temps pour organiser le scrutin, alors que le pays lutte en ce moment intensément contre la pandémie de coronavirus.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
La virulence de l'épidémie de Covid n'est pas aussi violente que redoutée en Haïti. Le dernier bilan officiel fait état d'un peu plus de 7000 cas de contamination, dont 154 morts. Et si ces statistiques sont loin d'être représentatives de la réalité, car les dépistages sont trop peu nombreux, le pays est néanmoins très peu affecté si l'on compare la situation avec d'autres pays du continent américain. Mais les conséquences du Covid n'en restent pas moins inquiétantes sur l'état de santé de la population qui fuit les hôpitaux. À Port-au-Prince, Amélie Baron.
Si le Covid semble relativement épargné à Haïti pour le moment, la communauté médicale se garde bien de crier victoire. D'une part, car personne ne peut dire comment l'épidémie va évoluer au cours des prochaines semaines. Et d'autre part, car la situation sanitaire générale s'aggrave, comme l'explique Bruno Lemarquis, coordonnateur humanitaire auprès des Nations Unies.
On note des chiffres assez inquiétants, par exemple la chute du nombre de vaccinations, la baisse des consultations très nette des consultations pré- et post-natales, par exemple, moins 40% de visites prénatales depuis, si on compare 2019-2020 aux mêmes périodes. Le nombre d'accouchements, ce qu'on appelle institutionnels, donc en service de santé, en maternité, a chuté. Et en parallèle, la mortalité maternelle a augmenté, donc c'est lié. Et également une résurgence de maladies, des cas de malaria, des cas de diphtérie, de tuberculose.
Deux principales raisons expliquent cette aggravation en matière de santé publique.
D'une part, l'offre de services a diminué à cause de Covid. Certains services, certains projets de partenaires, etc. ne fonctionnent pas à plein régime. Donc ça, c'est au niveau de l'offre, mais aussi au niveau de la confiance de la population. Les gens se rendent moins dans les services de santé. C'est lié énormément à la question des rumeurs aussi. Donc de la confiance de la population dans la réalité de la situation. Oui.
Plus de 5 millions d'Haïtiens, soit près de la moitié de la population, a besoin aujourd'hui d'une assistance humanitaire. La crise mondiale du Covid est un momentum qui pourrait faire sortir Haïti d'une gestion de l'urgence avec l'instauration de mécanismes qui permettraient le développement.
La mise en place en Haïti de manière plus institutionnalisée, avec des financements garantis d'un système de protection sociale, de filets de protection sociale. Lors de la crise Covid, il y a de plus en plus de discussions au niveau mondial, régional, de mise en place de revenus universels dans certains pays. Donc tout ça, ça permet de stabiliser, d'apporter un minimum de garanties financières, sociales aux plus vulnérables, qui sont très nombreux en Haïti. Donc ça va immédiatement en réponse aux besoins d'aide alimentaire, etc. Un autre exemple, c'est toute la question de la gestion des risques et désastres, la question de l'adaptation au changement climatique. Nous avons la tempête tropicale Gonzalo qui s'approche d'Haïti. Chaque tempête tropicale, chaque ouragan en Haïti crée des désastres. Et un ouragan ne doit pas forcément créer des désastres si le pays est prêt.
Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Port-au-Prince, où il est précisément 9h18.
RFI. La radio del mundo.
Le festival Haïti en folie démarre sa première édition virtuelle ce vendredi. C'est à vivre jusqu'à dimanche. Cet événement fait vivre en quelque sorte la culture haïtienne sous toutes ses coutures et de manière virtuelle. Cette année Covid oblige. Il va permettre aux internautes d'un peu partout sur la planète d'assister à des spectacles et à des discussions avec des artistes en Amérique du Nord, en Europe ou encore en Haïti. C'est un sujet de passion. Pascal Guéricola.
Après avoir longuement hésité, l'organisatrice d'Haïti en folie, Fabienne Collat, a choisi de tenir une édition raccourcie de ce festival qui s'adresse à la fois aux Haïtiens, qu'ils soient sur l'île ou ailleurs, mais aussi à ceux et à celles qui veulent découvrir la perle des Antilles. Au menu cette année, des ateliers de danse, des performances de guitaristes comme Paul Beaubrun, Ticorne ou Bitova au bass, sans oublier des reprises de spectacles comme celui qui avait eu lieu dans le cadre du festival Juste pour rire l'an dernier. Traditionnellement, la cuisine tient une place importante dans le festival. En l'absence de dégustation cette année, Fabienne Collat a trouvé un autre moyen pour faire apprécier les saveurs haïtiennes.
Et on a, entre autres choses, un chef de New York, Nadège Fleury-Mont, qui est très connu dans la communauté haïtienne. Et on a aussi chef Marie Leeds de Montréal. Alors, deux femmes extraordinaires qui vont nous montrer de toutes les couleurs, entre autres choses. Donc, ça va être bien beau à voir.
Les écrivains se taillent également une place de choix dans cette édition numérique, qu'il s'agisse d'une discussion avec Dany Laferrière ou d'une rencontre d'auteurs marquée par le grand poète Georges Castéra. C'est l'éditeur Rodney Saint-Éloi qui dirige Mémoire d'Encrier à Montréal qui rend hommage à son ami avec lequel il a fondé la revue littéraire Bouture à Port-au-Prince.
Je vois des milliers de jeunes sur les trottoirs en Haïti, peut-être qui ont faim, peut-être qui ont soif, et ces milliers de jeunes qui martèlent les poèmes de Georges Castéra. La poésie de Georges Castéra a fondé pratiquement la poésie créole. Et ce qui est paradoxal, Georges Castéra, c'est un bourgeois en Haïti élevé parfaitement en français. Tout ce qu'on fait en Haïti, c'est détourner les gens de la langue créole parce que c'est la langue du peuple, c'est la langue des pauvres. C'est vraiment un cas atypique. Il est entré dans la langue créole avec toutes les grandeurs et les subtilités de l'imaginaire créole. La poésie de Castéra nous amène quelque chose de plus grand que nous, de plus grand qu'Haïti. On a l'impression que Haïti, c'est un peuple grand, beau et fécond.
La façon dont les médias haïtiens à Montréal, New York et Port-au-Prince ont raconté la COVID fait également partie des sujets de discussion, comme celui sur le racisme. L'organisatrice d'Haïti en folie veut d'ailleurs profiter de cette plateforme virtuelle pour recueillir des fonds à destination des organisations culturelles qui soutiennent la diversité. Fabienne Collat constate que ce genre d'organisme reçoit moins d'aide que les autres organismes culturels.
On a bon espoir qu'un jour ça va changer. Pour l'instant, non, les organismes qui viennent en aide et qui présentent les arts des gens des communautés racisées sont ceux qui sont derrière le bus. Si on est à l'arrière du bus, on reçoit soit pas de financement, soit pas assez, soit des miettes, ça date pas d'hier.
L'édition virtuelle 2020 démarre donc aujourd'hui sur haitienfolie.com. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
Et nous continuons à parler de culture haïtienne avec une chanteuse qui va se produire, elle, demain soir, samedi, c'est à Toulouse, dans le sud de la France, car si la plupart des festivals et concerts sont annulés ou reportés en raison du Covid, eh ben, certains rendez-vous sont tout de même maintenus et s'adaptent à la situation. À Toulouse, donc, la salle du Métronome propose en ce moment une manifestation baptisée Tempo d'été. Les artistes chantent devant une jauge réduite d'une quarantaine de personnes. Il y aura donc à l'affiche une grande voix d'Haïti. Elle s'appelle Moonlight Benjamin. La chanteuse Moonlight Benjamin, installée en France depuis plus de 15 ans, Edmond Sadaka l'a jointe au téléphone et lui a d'abord demandé comment elle abordait ce concert où le public sera par la force des choses en nombre très réduit.
C'est vrai que ça fait étrange, mais l'essentiel pour moi c'est d'y être, de jouer et de partager avec les gens qui seront là. Et après, quand tout peut redevenir à la normale, je serai ravie aussi.
Et vous allez chanter en quelle langue? En créole essentiellement?
Essentiellement en créole.
Parce que vous avez choisi finalement depuis quelques années de ne chanter qu'en créole. Pour quelle raison?
Moi je pense qu'il n'y a pas une raison. C'est juste qu'il y a des moments où on sent les choses, on les fait. Plus tard ça va être qu'en français ou je ne sais pas. Mais j'écoute ce que le moment m'inspire.
On vous a surnommé parfois la Patti Smith d'Haïti. Ça vous fait plaisir? Est-ce que c'est une personnalité que vous affectionnez, je crois?
Oui, bien sûr. Donc, j'ai été surprise d'ailleurs, mais très honorée aussi. Je savais pas quoi dire. J'ai, comme dit en Haïti, je suis restée bouche bée. J'ai vécu ça avec joie et je remercie beaucoup.
Et si vous aviez un mot à dire à vos compatriotes qui vous écoutent, comment?
Eh bien, j'aurais dit, aimer, n'oubliez pas que l'amour, c'est la base de tout. C'est grâce à l'amour que cette planète existe. Donc, n'oubliez pas d'ouvrir le cœur J'ai grandi en Haïti, je suis née en Haïti, j'ai grandi en Haïti. Donc, ce qui fait, il y a beaucoup de, les souvenirs me fait que cet attachement reste très, très ancré en moi. Après, pour jouer là-bas, je rêve de jouer en Haïti. Je projette, c'est dans mon esprit depuis toujours. De toute façon, Haïti me donne l'image d'un pays, très fort et c'est un pays qui a une force phénoménale.
Moonlight Benjamin demain soir à Toulouse à la salle du Métronome dans le cadre de l'événement Tempo d'été. Son dernier album Simido est paru en début de cette année 2020.
Le journal de l'Outre-mer.
En direct avec Odane Agiali. Bonjour Odane.
Bonjour Adrien.
En Martinique, tout d'abord, les agriculteurs réclament un plan d'urgence, Odane.
Oui, une aide des autorités pour sauver les filières canne, élevage et banane. Les agriculteurs ont d'ailleurs prévu de manifester aujourd'hui. La crise du Covid-19 a complètement ébranlé ces filières, déjà durement touchées par des épisodes de sécheresse. Louis-Daniel Berthomme est le président de la Chambre d'agriculture de la Martinique.
Les agriculteurs, en général, sont relativement remontés, en fait, même, je dirais, même très remontés. Bon, beaucoup de, notamment des éleveurs, qui ont du mal à alimenter leurs troupeaux, qui perdent des animaux et qui constatent que jusqu'à maintenant, ils n'ont pas été indemnisés de la sécheresse de l'année dernière et ils sont en souffrance. Il y a aussi des producteurs maraîchers, des producteurs de bananes, des producteurs de canne, qui aussi sont impactés par cette sécheresse et qui demandent qu'on puisse mettre en place un plan d'urgence, hein, pour leur permettre de tenir un peu et puis bien sûr préparer un plan de relance de notre agriculture.
Le président de la Chambre d'agriculture de la Martinique, Louis-Daniel Berthomme. Et comment justement faire redémarrer l'économie locale après des mois de crise sanitaire et de confinement? C'est la question au cœur de ce projet porté par de jeunes chefs d'entreprise guyanais. Ils viennent de lancer une plateforme d'achat groupé en ligne. Le mode d'emploi avec Gaëlle Oassim de Guyane la Première.
Si le concept d'achat groupé n'est pas nouveau dans le monde, c'est une première en Guyane. Une association à but non lucratif d'une dizaine de jeunes liés au monde des affaires s'est créée durant le confinement. Son but, donner une visibilité aux commerçants du marché local durement touchés par les mois de restrictions. Jessica Robéry, chef d'entreprise et représentante de la plateforme.
L'idée, elle est très simple. Elle est de dire que si on se regroupe pour acheter, on peut à ce moment-là négocier auprès du commerçant des tarifs plus avantageux. Et donc, obtenir des réductions qui font que l'achat est plus intéressant.
Pour la chef d'entreprise, des critères de sélection sont quand même à remplir pour figurer sur la plateforme.
On va vraiment cibler des jeunes entrepreneurs qui ont créé leurs entreprises récemment, qui souvent sont en dehors des périmètres d'application des aides gouvernementales, donc qui ne peuvent pas bénéficier des mesures du gouvernement.
Une solution d'achat qui se veut économique et solidaire pour aider le marché local.
Un reportage Guyane la Première, signé Gaëlle Oassim. Et puis, onde tropicale ou petit ouragan, la tempête tropicale Gonzalo devrait finalement traverser le sud de l'Arc-Antillais demain. Son intensité reste incertaine selon Météo France. La Martinique devrait subir des perturbations dans le nord avec de nombreuses averses et des rafales de vent soutenues. C'est la fin de cette édition. Très bon week-end et puis on se retrouve lundi.
Merci Odane Agiali. C'est la fin de ce journal. Cette toute dernière information en provenance de l'Agence américaine de régulation de l'aviation qui annonce à l'instant avoir ordonné l'inspection d'environ 2000 Boeing 737NG et classiques après avoir repéré des problèmes sur des soupapes du moteur de ces appareils. Toutes ces informations sont à retrouver quand vous voulez sur notre site internet rfi.fr. Lundi, derrière ce micro, vous retrouverez Anne Verdaguet pour de nouvelles informations. J'ai